Il est 8h01.
Ce sont des moments importants et du coup galvanisants pour un site, parce que ça se fait qu'une fois tous les 10 ans. Et quand on réussit ces épreuves-là, c'est la garantie, par exemple pour l'enceinte, qu'elle sera apte à fonctionner pour au moins 10 ans de plus.
Voyage au cœur du réacteur, ou presque. Vous allez rentrer dans un instant dans une centrale nucléaire, un lieu à l'accès extrêmement limité. Et vous verrez comment l'on procède en ce moment à l'état des lieux des centrales dont on veut prolonger l'activité. Autre découverte exceptionnelle dans ce journal, la ville de Mossoul, en Irak, où doit se rendre dans quelques jours le pape François. Notre reporter Jean-Sébastien Soldaini y est déjà et nous raconte la renaissance de cette ville après les ravages de l'état islamique. Et puis, c'est l'un des innombrables effets du réchauffement climatique, le réveil d'une maladie enfouie dans nos forêts, des centaines d'hectares de châtaigniers sont déjà condamnés à l'abattage. Après le journal, l'interview politique. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, c'est peu dire que ses oreilles ont sifflé hier lors de l'interview avec Marine Le Pen à ce micro. Il lui répond ce matin sur Europe 1, rendez-vous à 8h15.
Il est 8h02, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est avec Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Ce sont des bâtiments impressionnants, mystérieux, familiers de nos paysages français, mais dans lesquels nous n'avons jamais l'occasion d'entrer. Nous vous emmenons ce matin dans une centrale nucléaire, la centrale du Bugey dans l'Ain. Elle célèbre cette année ses 40 ans et elle avait justement été construite pour durer 40 ans. Mais elle vient de recevoir, comme les autres centrales de sondage, l'autorisation d'être exploitée 10 ans de plus, à condition de passer une batterie de tests. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
C'est vous qui êtes entré pour Europe 1 dans cette centrale nucléaire où ces tests sont réalisés en ce moment. Alors dites-nous, ça ressemble à quoi ?
Eh bien, ce qu'on remarque déjà, c'est un signe qui ne trompe pas. Il n'y a pas de fumée blanche au-dessus de l'une des cheminées de la centrale. C'est le réacteur numéro 4 qui est à l'arrêt depuis le mois de novembre. Pour y entrer, j'ai dû m'équiper complètement de la fameuse tenue blanche, t-shirt, chaussettes, combinaison, gants, casque et masque, la totale. Je peux vous dire que quand on monte à 20 mètres pour aller voir le haut de la cuve, tout ça tient bien chaud. J'ai été équipée comme les agents d'EDF. Ils étaient une quarantaine à ce moment-là dans le réacteur, ce qui n'arrive jamais en temps normal. Il est complètement vide. À l'intérieur, je peux vous dire que tout est passé au peigne fin. La cuve du réacteur a été en partie démontée pour être radiographiée centimètre carré par centimètre carré à la recherche de la moindre fissure. C'est assez impressionnant. Ça, ce sont les tests, mais il y a aussi les travaux d'amélioration de la sûreté, comme l'explique Pierre Boyer, le directeur du site.
Typiquement, vous voyez le pont roulant, c'est les deux poutres jaunes. En fait, c'est ce qui permet, avec un crochet, d'aller chercher toutes les charges qui sont introduites dans le bâtiment réacteur à 0 mètre. Pendant la visite décennale, on renforce tous les ancrages de ce pont-là pour qu'il résiste à un niveau de séisme supérieur.
Voilà, alors toute cette phase, que ce soit les tests ou les travaux d'amélioration, c'est presque 2 ans de préparation en amont. Un travail colossal pour que le jour J, tout se passe bien.
Il faut être concentré parce que c'est beaucoup d'activités différentes qui doivent s'enchaîner. Mais ce sont des moments importants et du coup galvanisants pour un site, parce que ça se fait qu'une fois tous les 10 ans. Et quand on réussit ces épreuves-là, c'est la garantie, par exemple pour l'enceinte, qu'elle sera apte à fonctionner pour au moins 10 ans de plus.
Voilà, donc tout ça va durer encore 2 mois. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, devra ensuite donner ou pas son autorisation à une prolongation de 10 ans.
EDF met tout en œuvre pour pousser ses centrales le plus loin possible, mais elle se projette aussi vers l'avenir. Et l'avenir pour le nucléaire, ce sont les réacteurs de 3e génération, les fameux EPR.
Absolument, et EDF a déjà identifié plusieurs sites pour en installer, Bugey, où je me trouve en ce moment, ou bien Tricastin, mais aussi Gravelines et Penly en Normandie. Pour ça, EDF a besoin de l'autorisation de l'État, qui ne devrait pas arriver avant la mise en service du premier EPR à Flamanville, autrement dit pas avant 2023.
Merci Élise Dangean pour cette entrée exceptionnelle dans une centrale nucléaire, donc celle du Bugey dans l'Ain.
Dans le vaste combat mondial contre la pandémie de Covid-19, il y a toujours cette impression de confusion dans le choix des armes.
Dans le pays le plus endeuillé au monde, les États-Unis, l'un des États les plus peuplés, le Texas, s'apprête à laisser tomber le masque dès la semaine prochaine. Il ne sera plus obligatoire et tous les commerces pourront rouvrir. Explication du gouverneur américain de cet État du Texas, Greg Abbott.
It is now time. To open Texas,
c'est maintenant l'heure d'ouvrir le Texas à 100%, dit-il. Trop de Texans ont été mis à l'écart du marché de l'emploi, trop trop de Texans ont eu des difficultés à payer leurs factures. Le républicain Greg Abbott, avec ses arguments économiques, qui pèsent donc plus lourd pour lui que le taux de vaccination au Texas. 7% seulement des Texans sont vaccinés, alors que Joe Biden promet désormais un vaccin disponible pour tous les adultes américains d'ici à la fin du mois de mai.
Pendant ce temps, en France, un département voit ses hôpitaux débordés sous l'effet du variant sud-africain.
Et ce département, c'est la Réunion, où nous vous retrouvons, Charles L'Huillier. Charles, la Réunion va pour la première fois transférer ses patients vers la métropole. Et c'est un défi technologique. Des avions de fret sont transformés pour assurer ce transfert médical sur 9000 km.
Oui, c'est une première mondiale, m'ont confié les autorités hier. Dès demain soir, un Boeing 787 avec 4 premiers malades va décoller. 11 heures de vol au total. Avion qu'il a fallu complètement transformer, explique Sabrina Weddle, la secrétaire générale du CHU de La Réunion.
Nous aurons besoin d'embarquer plus de 30 000 litres d'oxygène à bord. Une zone qui sera à l'arrière de l'avion accueillera les 4 patients avec l'équipe médicale et ensuite, bien évidemment, une zone qui est un sas dans lequel les équipes médicales pourront s'habiller et se déshabiller pour accéder à la zone avec les malades toute la durée du vol.
Véritable défi sanitaire et logistique, car très risqué pour les malades. Alors du coup, l'idée n'est surtout pas d'ouvrir les vannes vers Paris, mais au contraire de transférer au compte-gouttes, prévient Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé.
Une telle évacuation ne va pas de soi, ni sur un plan technique, ni sur un plan médical pour les personnes transférées. Elle doit être conçue comme un ultime recours le plus possible.
Un ultime recours, car ces évacuations sont aussi très coûteuses. Les autorités ne veulent pas communiquer sur les chiffres, mais on estime que chaque transfert pour chaque malade représente environ 10 000 euros.
Merci Charles L'Huillier de notre radio partenaire à la Réunion, Radio Freedom.
En métropole, les 20 départements placés en surveillance renforcée vont voir leur sort débattu aujourd'hui. Conseil de défense sanitaire.
Réunion donc à l'Élysée avant les annonces attendues du Premier ministre Jean Castex demain. Ça concernera notamment Paris, Lyon et Marseille avec de possibles nouvelles mesures restrictives.
Un conseil des ministres est également prévu aujourd'hui avec à son menu la dissolution de Génération Identitaire.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis de dissoudre cette association d'ultra-droite. Elle doit être actée, cette dissolution, donc aujourd'hui. Mais on se souvient qu'avant lui, Christophe Castaner, mais aussi Manuel Valls, avait tenté la même chose sans y parvenir. Mais cette fois, le ministère de l'Intérieur s'appuie, Justin Morin, sur ce qu'il présente comme une radicalisation du mouvement.
Oui, point par point, le ministère détaille les preuves récentes, à commencer par la dernière action anti-migrants menée dans les Pyrénées. Au début de l'année, une trentaine de militants assimilables à une milice privée, selon Beauvau, a traqué des sans-papiers près de la frontière espagnole. Une enquête pour incitation à la haine raciale a d'ailleurs été ouverte. Alors, ce type d'action, il y en avait déjà eu, mais à l'époque, sans conséquence. Cette fois, les juristes du ministère de l'Intérieur s'appuient également sur la vingtaine de membres déjà condamnés en première instance et pointent l'influence néfaste de l'association que l'on retrouve jusque dans un dossier antiterroriste. L'année dernière, un ancien militaire qui projetait de s'attaquer à des juifs a été arrêté à Limoges. Chez lui, parmi les armes et les engins explosifs, les enquêteurs ont retrouvé des autocollants et des t-shirts siglés Génération Identitaire. Pour autant, Jérémy Piano, l'un des porte-parole, nous l'a assuré, cette décision ne fera pas taire les 4000 adhérents revendiqués.
Les militants contre l'insécurité, contre l'islamisation, le racisme anti-blanc, etc., et bien, ces combats-là ne vont pas disparaître et ces militants-là ne vont pas disparaître non plus, même s'il y a une dissolution. Ils trouveront des associations, des partis, etc.
L'avocat de l'association l'a déjà fait savoir, Génération Identitaire va contester sa dissolution devant le Conseil d'État.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant et c'est exceptionnel. Nous vous emmenons en Irak, à Mossoul, une ville qui renaît de ses cendres. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bostaron.
C'est une de ces villes du monde qui résonne dans nos esprits comme un symbole des ravages de la guerre. Mossoul, en Irak. Dans 3 jours, la deuxième ville du pays va recevoir la visite du pape François. Or, il y a 4 ans encore, elle était la capitale de l'État islamique. Et Europe 1 était sur place à l'époque avec notre reporter Gwendoline de Mono aux côtés des combattants irakiens opposés aux djihadistes.
Son minaret oblique qui domine les toits de la vieille ville semble narguer les soldats. La mosquée est devant nous, mais les djihadistes ont jeté toutes leurs forces dans ces 700 mètres. Pour appuyer les unités, les hélicoptères de combat mitraillent près d'un souk. Les départs de missiles emplissent les allées de fumée. La difficulté, dit le capitaine Allah, ce sont les milliers de civils bloqués dans le quartier.
Ils se cloîtrent dans leurs maisons. Dans ces anciennes bâtisses de Mossoul, il y a des pièces en sous-sol. Les civils restent dans les sous-bassements. S'ils sortaient, Daesh les tuerait.
Et ses habitants, libérés quelques mois plus tard, Europe 1 est de nouveau parti à leur rencontre. Bonjour Sébastien Sodaini.
Bonjour.
Ses habitants, ils revivent aujourd'hui dans une ville transfigurée.
Eh bien, Mossoul est une ville qui présente deux visages. À l'ouest, vous avez les restes du chaos et des combats qui vivent désormais au rythme des travaux de rénovation. C'est là qu'Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat, juste en face de la boulangerie de Bedran.
Nous pouvons dire que c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui nous est accordée. Et même si les affaires tournent à 40% de ce que c'était avant l'État islamique, nous avons l'impression de vivre au paradis si on compare avec l'époque Daesh.
À l'est, les embouteillages gagnent le marché central où deux jeunes hommes se promènent bras dessus, bras dessous. Hassan, lui, s'avance tranquillement, cheveux gominés et veste flashy.
Il était interdit de porter un vêtement comme celui-là, avec des inscriptions en anglais ou dans une autre langue occidentale. Il fallait être habillé de noir ou de blanc, rien d'autre. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut.
Il reste sur ses gardes car certains esprits sont formatés par la vie sous l'emprise des djihadistes, dit-il, ce qu'ils appellent ici les enfants de Daesh.
Merci Jean-Sébastien Soldaini à Mossoul donc pour Europe 1, où se rendra donc le pape François attendu vendredi pour cette visite historique en Irak.
Le réchauffement climatique apporte des dangers nouveaux en France, mais il réveille aussi des dangers enfouis depuis longtemps dans nos sols.
Il y a un siècle et demi, la maladie de l'encre arrivait sur notre sol, mais personne ne le savait jusqu'à présent. Il a fallu se réchauffement climatique pour que cette maladie venue d'Asie s'active et attaque sa cible, les châtaigniers des arbres condamnés à être abattus. 250 hectares sont déjà ciblés en région parisienne sous les yeux d'habitants sidérés, notamment dans la forêt de Montmorency. Pierre Rabulot.
Des troncs entassés sur le bord d'un chemin, une machine dépose les dernières cargaisons de bois mort sous les yeux stupéfaits des promeneurs. Ils ne reconnaissent plus leur forêt.
C'est impressionnant parce qu'avant, quand on passait dans cette allée, c'était assez sombre et assez touffu. Et là, maintenant, c'est très clairsemé, donc c'est un peu désolant. Nous, on a l'impression qu'on est en train un petit peu de saccager la forêt, quoi.
Ça fait des années que je viens régulièrement. Ça fait vraiment mal au cœur, hein. Personne ne comprend exactement ce qui se passe.
Si les châtaigniers semblent en pleine forme, ils sont pourtant bien atteints de la maladie de l'encre, presque invisible à l'œil nu et surtout incurable.
Les coupes, c'est toujours un moment qui fend le cœur.
Michel Béal est le directeur local de l'Office national des forêts. Si la coupe des arbres contaminés s'accélère aujourd'hui, c'est grâce à une cartographie inédite réalisée avec des images satellites.
Les photos qui ont été prises grâce à l'intelligence artificielle ont pu déterminer le degré d'avancement de la maladie. Ici, c'est une tempête silencieuse, comme on dit, qui est dans la durée.
Chaque arbre sectionné sera remplacé par un autre plus résistant, assure l'ONF. Chêne, cèdre, merisier. Mais il faudra quelques dizaines d'années pour que la forêt retrouve son éclat.
Le reportage dans cette forêt de Montmorency meurtrie de Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Rémi Bossaran, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h15.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre dans quelques secondes, l'invité politique de la matinale, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au micro de Sonia Mabrouk, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
Bienvenue à vous et bonjour Christophe Castaner. En cette période inédite, en pleine pandémie, eh bien, la campagne présidentielle s'esquisse et s'avance. À ce sujet, vous avez récemment qualifié Marine Le Pen, je cite, d'ennemi de la République. Elle vous a répondu hier à ce micro sur Europe 1, on l'écoute.
Ça fait des années qu'on nous sort cette litanie des ennemis de la République, un parti non républicain, mais c'est-à-dire, on n'a jamais eu un élément précis. Je crois que c'est un argument de feignasse.
Argument de feignasse. Que répondez-vous ?
Bon, d'abord, ne comptez pas sur moi pour tomber dans la vulgarité ou l'insulte. Je pense que le débat politique mérite mieux que cela. Moi, j'ai une constante. En 2015, j'étais tête de liste aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'ai eu un choix à faire entre mes adversaires, Christian Estrosi, chef de file pour les Républicains, et Marion Maréchal Le Pen, qui avait fait un score étonnant dès le premier tour dans cette élection. Et j'ai dit clairement que je faisais la différence entre mes adversaires et les ennemis de la République. Parce que je considère que le Front National, le Rassemblement National, Marine Le Pen, il ne faut pas oublier quelles sont les racines de ce parti politique, quelle est l'histoire de ce parti politique, parfois raciste, parfois antisémite, les soutiens, les mauvaises fréquentations. Le soutien significatif de Marine Le Pen à Génération Identitaire. C'est un parti qui remet en cause le droit des homosexuels. Alors certes, il n'y a pas de constance. Ils sont en train de lisser le personnage de Marine Le Pen, mais aussi leurs idées. Mais la réalité, c'est que c'est un parti qui est financé par l'étranger. C'est un parti qui n'est pas républicain.
Vous en avez la preuve ?
Les prêts russes, j'en ai non seulement la preuve, mais nous savons que le Front National...
C'est une interdiction ?
Le Front National a été condamné par la justice russe. Vous vous rendez compte ? C'est le parti de l'étranger.
Mais ici, nous sommes en France. Ça fait des années, vous, Christophe Castaner, d'autres, que vous répétez que Marine Le Pen est une ennemie de la République. Résultat ? Elle ne cesse de progresser. Merci qui ?
Alors d'abord, elle ne cesse de progresser. Depuis 2002, de mémoire, Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Et donc c'est un combat permanent. Et elle surfe sur quelque chose qui est facile, les peurs, le mensonge. Elle affole les populations, elle gère et elle génère la guerre du tous contre tous.
Est-ce que ce n'est pas un argument d'arrière-garde, un combat d'arrière-garde ?
Ah d'abord, je pense que combattre les ennemis de la République n'est jamais d'arrière-garde. Et même si vous perdez ce combat, il faut toujours le mener. Et je mènerai toujours ces combats-là. Mais nous devons le porter aussi par des réponses qui parlent à celles et ceux qui se sentent victimes de la mondialisation. Quand nous faisons en force, nous devions un des pays les plus attractifs du monde pour les investissements étrangers, nous faisons de la reconquête de notre souveraineté nationale.
Vous allez nous en parler, mais dites-nous Christophe Castaner, comment une ennemie de la République se retrouve élue de la nation, députée bénéficiant de millions de voix de Français qui lui font confiance dans les urnes?
Parce qu'elle surfe sur des peurs et qu'elle rassemble ces peurs-là. Elle surfe sur des fake news, sur des mensonges. On l'a vu se prononcer sur la stratégie vaccinale, par exemple, ou sur les remèdes et les poudres de perlimpinpin sur lesquelles elle a pu s'exprimer et prendre position. Au fond, elle essaye d'alimenter les peurs et de vivre sur cela. Et ça fait un petit fonds de commerce.
Il n'y a pas d'autre argument aujourd'hui. Ça fait des années que nous entendons tous le même argument. Elle fait peur, elle fait peur, elle fait peur. Et aujourd'hui, elle est dans un mouchoir de poche au second tour avec éventuellement le président sortant.
D'abord, je ne me prononce pas sur un sondage qui a été fait sur un second tour. Et vous savez comme moi que tous les spécialistes des sondages considèrent que ces sondages n'ont pas beaucoup de sens. Mais agissons. Quand nous augmentons le minimum vieillesse de 100 euros par mois, quand nous augmentons l'allocation adulte handicapé de 100 euros par mois, quand nous défiscalisons les heures supplémentaires, quand nous supprimons la taxe d'habitation pour 80% des Français, nous agissons aussi pour rassurer les Français. Faisons-le. Mais ne négligeons pas le débat politique. Je suis un homme politique et je sais quels sont mes adversaires et quels sont ceux qui menacent la République.
Menace la République. Alors allons plus loin, Christophe Castaner, dans votre logique. Si le Rassemblement national de Marine Le Pen fait partie à vos yeux de ses ennemis de la République comme génération identitaire, pourquoi vous ne proposez pas de le dissoudre ?
Ah, parce que je suis un combattant politique. Et je pense que le combat politique se mène dans les urnes, pas devant les tribunaux. Mais c'est vrai que quand Marine Le Pen est convoquée par les tribunaux, elle joue de son immunité parlementaire pour ne pas venir devant les tribunaux.
Il n'y a pas de présomption d'innocence pour elle ?
Ah mais je ne vous parle pas de présomption d'innocence.
Mais pour l'instant, elle est présumée
innocente.
Quand
elle est convoquée par un juge, elle oppose son immunité parlementaire. Je trouve que ça n'est pas bien. Et que quand on est un homme politique, on se doit l'exemplarité à commencer par répondre aux convocations de justice.
Est-ce que vous appliquerez le barrage républicain, le front républicain, quoi qu'il arrive ?
Moi, oui, sans aucun état d'âme. Je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut faire la différence entre des adversaires qui peuvent gagner une élection, il arrive aussi que j'ai pu en gagner, et des gens qui contestent même le vivre ensemble. La nation française, c'est liberté, égalité, fraternité.
Elle conteste le vivre ensemble, Marine Le Pen ?
Ah mais elle fait tout pour empêcher la fraternité, qui est quand même des fondements
de
notre pays.
Vous avez un exemple à nous donner d'un argument, d'un projet dans son programme qui ferait qu'elle empêche ce vivre ensemble ?
Ah bah, je vous en donne deux, trois. Quand, par exemple, vous voulez supprimer la redevance audiovisuelle, parce que l'audiovisuel public n'est pas favorable à vos idées, je pense qu'effectivement le vivre ensemble est mis en cause. Et pourtant, sur ces radios, France Inter par exemple, il m'arrive régulièrement d'être critiqué, mais je l'assume parfaitement. Quand on remet en cause le financement du planning familial, et j'ai vécu ça dans ma région, dans les volontés de Marion Maréchal Le Pen, qui depuis a changé de nom, comme le Rassemblement National d'ailleurs, pour effacer tout ça. Mais quand on remet en cause le planning familial, on menace le vivre ensemble de ces jeunes femmes qui ont besoin d'accéder au planning familial. C'est ça la réalité. Et la liste est longue sur ces sujets et je pourrais évidemment l'avancer.
Non mais on a compris que vous ferez ce barrage républicain, front républicain, mais si le scénario du second tour à la présidentielle, puisque vous vous projetez Christophe Castaner, n'est pas celui que vous croyez ou espérez, mais qu'il oppose Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, vous ferez barrage à qui ?
Ah, je fais une vraie différence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, contrairement à lui. J'ai le souvenir du soir du premier tour de l'élection présidentielle où lui n'a pas été capable de faire la différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, je soutiendrai à ce moment-là Jean-Luc Mélenchon, mais vous savez comme moi que c'est une hypothèse assez peu probable.
Vous soutenez celui qui dénonce l'islamo-gauchisme dans les universités et qui considère que l'islamo-gauchisme est un fantasme idéologique.
Ah mais vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas
d'accord. Et vous soutenez aussi le même Jean-Luc Mélenchon qui, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, a qualifié de barbares les policiers.
Attendez, il y a deux choses différentes.
Mais c'est le même homme, répondez-moi.
Non, mais il y a deux choses différentes entre soutenir et faire barrage. Je pense que vous intégrez cela aussi. Et donc moi, je soutiens aujourd'hui la politique que nous menons et je la défends. Et je tente de le faire devant vous et je le fais sans cesse. Ensuite, je considère que faire barrage, c'est faire la différence entre des adversaires politiques que vous combattez. Je l'ai fait avec Christian Estrosi, il n'était pas des plus tendres parmi les LR.
Mais vous estimez que Jean-Luc Mélenchon, qui dit par exemple que l'islamo-gauchisme est un fantasme, n'est pas un ennemi de la République?
Je pense qu'il a tort de dire cela.
Mais il n'est pas un ennemi de la République.
Mais il n'est pas un ennemi de la République parce qu'il est un républicain. Et d'ailleurs, il a été condamné par la justice, il a assumé sa sanction aussi.
Et quand il avait dit des policiers qu'ils étaient des barbares et que vous aviez vertement réagi...
À l'époque, je crois avoir le souvenir d'avoir porté plainte contre lui sur ses propos.
Et c'est ce même homme pour lequel vous seriez prêt à voter s'il y avait ce duel.
Mais parce que je fais la différence, et ça s'appelle le Front Républicain. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui abandonnent le Front Républicain font le lit du Front National. Moi, je ne l'abandonne pas parce que je fais cette différence-là.
Un sondage, Christophe Castaner, publié ce matin, sondage IFOP pour la LICRA sur la laïcité au lycée. Comment les lycéens perçoivent ce fondement de la République? Eh bien, plus d'un lycéen sur deux se dit favorable au port de signes religieux au dans les lycées, une proportion qui est forte chez les lycéens musulmans favorables au voile dans les lycées. Comment vous réagissez?
Je l'ai lu très rapidement, donc je peux en faire une analyse devant vous. Je n'en suis pas capable vu le fait que je n'ai que parcouru. Ce que je sens, c'est d'abord la définition de la laïcité, et on le voit dans nos débats politiques, elle est plurielle. Certains considèrent que la laïcité, c'est s'opposer à tous les signes religieux, ce qui n'est pas le cas. La laïcité, c'est garantir le droit de croire ou de ne pas croire. Mais la laïcité, c'est affirmer que les valeurs de la République sont supérieures à celles de la religion. Et quand on regarde ces sondages, et notamment la différence entre les plus jeunes et les plus âgés, c'est ça qui est intéressant, c'est ce comparatif, on voit que les jeunes sont très libéraux, y compris par exemple sur les signes religieux ostensibles. Ils sont beaucoup plus libéraux que ne l'est la société française.
Quand vous dites libéraux, ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'interdiction de ces signes. Et vous considérez que c'est une bonne chose?
On est sur certains sujets à 50%, à 50-50. Non, je ne considère pas que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils se trompent parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui instrumentalisent notamment les signes religieux pour imposer des valeurs religieuses aux valeurs de la République, justement.
Est-ce que vous avez évolué vous-même, Christophe Castaner, sur votre appréhension, votre définition du voile? Pour certains, c'est un symbole d'asservissement, une forme de prosélytisme. Et pour vous, aujourd'hui?
Non, quand il est choisi par une femme qui fait un choix religieux. D'ailleurs, je rappelle que la religion musulmane n'impose pas le port du voile et les autorités religieuses musulmanes l'ont rappelé. Mais quand il est choisi par quelqu'un...
Ça dépend dans quel pays, Monsieur Castaner.
Je parle de la France,
Non, mais quand évidemment. Même, nous avons des frontières, nous voyons ce qui se passe aussi à l'étranger. La France peut être un symbole pour d'autres pays sur ce sujet.
Oui, mais je pense qu'être un symbole d'accepter qu'on porte des signes religieux si on a une pratique religieuse, c'est montrer aussi que la laïcité, elle se fait dans le respect de choix des convictions religieuses. Mais attention, il y a une hiérarchie. La République doit toujours passer avant les choix religieux. Or, aujourd'hui, on voit bien des dérives. J'ai été ministre de l'Intérieur quand, fin 2019, j'ai confié la responsabilité et la première priorité à tous les préfets de France de faire en sorte que le combat contre l'islamisme soit leur première priorité. Parce que je vois bien qu'il y a des territoires de la République où la République a disparu. Et donc, il nous faut reconquérir mètre carré par mètre carré la République.
C'est pour ça que vous apportez un soutien franc, totalement franc, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sans aucune nuance.
Sans aucune nuance, et je me suis totalement engagé comme les députés de la majorité pour faire en sorte que la grande loi qu'il a portée à l'Assemblée nationale puisse aboutir dans les meilleures conditions.
Vous lui apportez ce même soutien quand il avait considéré que Marine Le Pen était molle?
Il a mené un débat où il a montré que Marine Le Pen était peut-être molle, mais surtout incompétente.
Nicolas Sarkozy contre-attaque ce matin dans le Figaro. Dans un état de droit, il faut des preuves et pas un faisceau d'indices, dit-il. La justice est au service de qui?
Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu les 256 pages du jugement qui a abouti à cette condamnation.
Vous
moi, je ne les ai pas lues. Et donc, je vais éviter de commenter d'abord une décision
c'est
de justice.
C'est trop facile, Monsieur Castaner.
Non, ce n'est pas trop facile. Je pense que pour commenter quelque chose, il faut le connaître. Je n'ai pas lu les 256
pages.
Alors,
M. Darmanin a dû lire les 258 pages.
Monsieur Darmanin, là encore, s'est exprimé à titre personnel et amical. Il a réaffirmé son amitié pour Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas de lien personnel avec Nicolas Sarkozy, donc je ne vais pas sur ce registre-là. Gérald Darmanin n'a pas pris une position politique et réaffirmé son soutien personnel à Nicolas Sarkozy. C'est son choix et ça ne m'a pas surpris parce que je sais les liens qui unissent les deux hommes.
Mais s'il le souhaitait, est-ce qu'il pourrait se présenter de nouveau en vue de 2022, Nicolas Sarkozy?
Vous savez, le droit doit s'appliquer pour tous. Et donc, s'il n'était pas condamné à une interdiction de se présenter, il pourrait se présenter. Je n'y crois pas une seconde.
Vous n'y croyez pas?
Non.
Qu'il se représente?
Oui.
Pourquoi?
parce que je pense que sa situation politique ne lui permet pas de se représenter. Je pense que Nicolas Sarkozy ne se présenterait que s'il était convaincu de gagner. Il sait très bien qu'il ne gagnerait pas l'élection présidentielle vu sa situation politique.
Ce serait intéressant de réécouter cette partie peut-être dans quelques mois. À suivre, on ne sait jamais. Nul n'est mort en politique, non ?
Non seulement nul n'est mort en politique, il m'est arrivé de me tromper dans mes analyses politiques et quelquefois d'avoir raison.
On verra. En tous les cas, merci Christophe Castaner d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Et à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info avec Théo Manval, la météo, Laurent Cabrol, c'est à suivre. Très bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Théo Manval.
À quelle sauce les 20 départements en vigilance renforcée seront-ils confinés ? Mesure décidée ce matin en Conseil de défense sanitaire. On attend les annonces demain de la bouche du Premier ministre Jean Castex. Au dernier bilan, près de 3600 personnes en réanimation dans le pays, nombre en légère hausse, comparable à ce qu'il était début décembre à la sortie de la deuxième vague. Et face à cela, pour le vaccin, la stratégie européenne commence à se fissurer. De l'Autriche au Danemark, en passant par la Pologne ou la République tchèque, plusieurs membres des 27 sont désormais en lien direct avec la Chine, la Russie ou Israël pour commander des doses hors des commandes groupées réalisées par l'UE. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Ces pays, Isabelle, critiquent ouvertement la lenteur de la stratégie commune.
Oui, ils critiquent et ils passent aux actes. Dès demain, le chancelier autrichien et la première ministre danoise seront en Israël pour discuter d'un futur partenariat. De son côté, le premier ministre slovaque a donné une conférence de presse devant les premières caisses de Spoutnik livrées à son pays. Les Tchèques, eux, attendent les leurs. Le Polonais a appelé son homologue chinois pour faire affaire. Quant au Hongrois Viktor Orban, il s'est fait injecter le sérum chinois de Sinopharm devant les caméras. Face à tout cela, la Commission européenne n'a d'autre choix que de serrer les dents. Après tout, les États sont souverains et libres de leur choix de santé. Mais c'est très désagréable, c'est un moment très compliqué pour nous, lâche une source bruxelloise. Ces démarches ne viennent pas du cœur du réacteur européen, se rassure un diplomate. France, Allemagne, Italie ou encore Espagne continuent à serrer les rangs. Face à l'impatience des opinions publiques, c'est normal de jouer sur plusieurs tableaux. C'est de la politique, décrypte un expert fataliste. À Bruxelles, les Européens rappellent aussi une chose. Malgré les critiques, aucun des pays protestataires n'a renoncé aux doses commandées dans le cadre des contrats communs.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et ces vaccins, les soignants hospitaliers rechignent encore trop à les recevoir. Le Covid est aujourd'hui la première maladie nosocomiale en France. Et dans un tiers des cas, le patient contaminé à l'hôpital l'a été par un soignant. Ce sont les enseignements de notre dossier du journal de 7h ce matin, dossier à retrouver sur europe1.fr. La circulation alternée en vigueur en Île-de-France aujourd'hui pour cause de pollution de l'air. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 sont autorisés à rouler dans le périmètre de l'A86. La vitesse est réduite de 20 km/h sur tous les axes. Même chose dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme. C'était un geste d'apaisement recommandé par l'historien Benjamin Stora dans son récent rapport. Emmanuel Macron reconnaît la torture et l'assassinat par l'armée française du militant Ali Boumendjel en 1957 pendant la guerre d'Algérie. La mort de cet avocat nationaliste avait été maquillée en suicide. Le chef de l'État a reçu ses petits-enfants hier soir. C'est toujours mon père et je l'aime. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses monstrueuses qu'on est forcément un monstre. Je lui ai tendu la main. Je suis prête à pardonner. Les mots de Colin Berry pour son père Richard ce matin sur Europe 1. Le comédien qu'elle accuse d'inceste et contre lequel elle a porté plainte pour viol. Invitée tout à l'heure à 7h40, elle assure qu'il lui a demandé pardon avant, dit-elle, de nier publiquement les faits. Et dans l'actualité judiciaire ce matin, ce pourvoi également examiné par la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi. Lors du procès, les magistrats avaient reconnu le caractère antisémite du meurtre de cette sexagénaire par l'un de ses voisins. C'était en 2017. Mais ils avaient estimé que le tueur n'était pas responsable pénalement de ses actes à cause d'une forte prise de drogue. Maître Muriel Waknin-Melki espère que les sages entendront ce recours pour permettre la tenue d'un procès. Écoutez.
Comment finalement on peut avoir un discernement qui est totalement aboli, mais avoir un reste de conscience qui permet de cibler une personne parce que juive. Et puis, au-delà de tout ça, c'est un enjeu quand même important aussi pour l'ensemble des citoyens français que de savoir si finalement la consommation de stupéfiants peut être une cause exonératoire de responsabilité pénale en matière criminelle. Et je veux juste ici rappeler que dans plusieurs infractions, par exemple le crime de viol, la prise de stupéfiants est une circonstance aggravante. Dans les violences volontaires, c'est une circonstance aggravante aussi.
Maître Muriel Waknin-Melki au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. Enfin, en football, 28e journée de Ligue 1 ce soir, à suivre notamment Rennes-Lyon à 10h. 19h et le choc Lille-Marseille à 21h.
Merci Théo Manval à 8h35. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Avec une zone de pluie qui est entrée sur la France, elle est entrée par la Bretagne ce matin tôt. La voici maintenant sur un axe qui va du Cotentin à la région nantaise et puis en descendant en Vendée à Mouilleron, jusqu'à Mouilleron-le-Paré. Pourquoi je cite Mouilleron-le-Paré ? Eh bien, c'est une commune de 1300 habitants. C'est la commune qui a vu naître Georges Clémenceau, tout simplement. Voilà. Et donc, il pleut là. C'est la perturbation part de là et jusqu'au Cotentin. Dans les autres régions, c'est-à-dire, cet après-midi, les pluies ne vont pas en rester là, il faut que je sois quand même précis. Elles vont gagner la Haute-Normandie, la Sarthe, la Vallée de la Loire, et ce soir la région parisienne, ou en fin de journée, et dans toutes ces contrées, donc ce sera un temps souvent couvert, on l'imagine, avec de la pluie. Et puis partout ailleurs, ce sera couvert aussi, voilé, allez, on va dire voilé, sombre, ténébreux, nébuleux, tamisé. Comme vous voulez, vous choisissez ce que vous voulez.
Un dictionnaire des synonymes sous les yeux, c'est pas possible.
Alors là, t'as raison, je suis allé les chercher.
On les connaît, les trucs.
Cabrol, toi. Bon, alors, donc, progressivement voilé ce ciel. Et puis, nous sommes ensuite. Et puis, ce sera ainsi toute la journée avec des températures extrêmement douces, entre 13 et 20 degrés. 20 à Bordeaux, 18 à Paris, 18 à Lyon. Ce sont vraiment des températures très douces. Et il faut en profiter. Demain, ce sera les premières journées de froidure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1. Vous restez avec nous avant 9h, vous le savez. La revue de presse, Nicolas Canteloup, Fanny Agostini, notre planète, mais tout de suite, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors les troubles du sommeil sont en constante augmentation et je vais vous parler de somnifères, un des traitements les plus prescrits en France et qui, vous allez le voir, ne permettent absolument pas de dormir.
Attention aux somnifères alors. Jimmy Mohamed dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1.
Santé, alors Jimmy Mohamed, ce matin, certains sont encore en train de se frotter les yeux, 9h-20, on a du mal à se réveiller parfois et vous nous parlez de somnifères. Les somnifères, Jimmy, qui selon vous ne permettent pas de dormir.
Exactement. Contrairement à ce que les fabricants de ces médicaments prétendent, il n'existe pas de vrais médicaments capables d'induire le sommeil. Si on reprend l'étymologie du mot somnifère, somni, ça veut dire sommeil, faire apporter. Un somnifère devrait donc apporter le sommeil, sauf que cela n'a jamais été démontré. Tous ces produits vont avoir un effet sédatif. Vous allez avoir une forme d'anesthésie avec un effet anti-éveil, mais vous ne dormirez pas. Et d'ailleurs, si on prend ces traitements et qu'on enregistre votre sommeil avec des appareils et des capteurs, on va s'apercevoir que ça va déstructurer votre sommeil en diminuant les stades importants qui devraient vous reposer. Vous êtes donc anesthésié, inconscient, mais vous ne dormez pas. Alors vous allez me dire, mais on devrait s'en rendre compte. Le problème dans ces traitements, c'est qu'au bout de 2 à 3 semaines d'utilisation, ça va provoquer une amnésie de troubles du sommeil. C'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas dormir, mais vous allez en plus oublier que vous avez mal dormi et un cercle vicieux va donc s'installer.
Mais dans ce cas-là, que faire ou que prendre en cas d'insomnie passagère, docteur ?
Alors évidemment, la première chose à faire, c'est de consulter votre médecin. Vous avez le droit d'avoir des pathologies du sommeil, comme de l'apnée du sommeil, ou même une dépression qui peut apporter justement un trouble du sommeil. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a éliminé les pathologies et qu'on a corrigé ce qui va voler ou parasiter notre sommeil, comme les écrans ou les excitants, ce que vous pouvez faire, c'est prendre par exemple, sous forme de complément alimentaire, de la mélatonine le soir, tous les jours. Ça n'a quasiment aucun effet secondaire et c'est très bien toléré. Même chose avec le zinc. Le zinc, c'est un des métaux les plus abondants dans notre organisme, mais ça va améliorer potentiellement votre sommeil. Tout comme les plantes, on les oublie, mais la valériane, qui a mauvais goût, mais qui peut être prise sous forme de gélules, la passiflore ou même
ça
le rhodium.
C'est très mauvais, la valériane. C'est dur.
C'est pas bon.
Non, c'est pas la tisane c'est pas bon, camomille, mais... thé à la menthe. Hein, c'est...
Exactement. Mais ça existe sous forme de comprimés ou de gélules. Passiflore ou rhodiol, tout ça peut vous aider. Tout ce dont je vous ai parlé n'a aucun effet secondaire, ce qui permet d'éviter à tout prix de consommer ces somnifères qui non seulement sont inefficaces, mais en plus nocifs pour votre santé.
Puis, bon, cela dit, il n'y a pas d'effet secondaire, mais on ne va pas prendre la valériane avant de conduire non plus. Bon, on va essayer, on va voir si on est réveillé demain matin. Et on continue à parler de sommeil dans 100 rendez-vous. C'est ma matinale, hein. Moi je me réveille avec vous de 15h à 16h avec Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed. On va poursuivre cette conversation sur le sommeil, bien sûr. Merci Jimmy. 8h41, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin, Fanny, à Marseille, où d'anciens salariés de McDonald's reconvertissent un des restaurants de la franchise en restaurant solidaire et écologique.
Reconversion est un bien tendre mot. Les salariés du McDo, qui a été placé en liquidation judiciaire et dont le sort n'est pas encore décidé, parlent plutôt d'une réquisition citoyenne. Car depuis 2019, l'enseigne de la multinationale située dans le 14e arrondissement de Marseille reste porte close. En mars dernier, à l'heure du confinement et de l'explosion de la précarité alimentaire, les salariés ont décidé de s'emparer des locaux pour en faire une plateforme de distribution de colis alimentaires et de produits sanitaires pour les plus démunis. Une aide bienvenue parce que 40% des habitants du quartier étaient déjà maintenus sous le seuil de pauvreté avant le choc de la pandémie. Et depuis, le lieu est devenu une véritable plateforme de solidarité populaire, donnant un tout nouveau sens au slogan « Venez comme vous êtes ». D'ailleurs, l'enseigne en elle-même a été renommée l'après-M.
Bon, après un an d'occupation des lieux de l'ancien McDo, les ex-salariés attendent désormais le soutien de la mairie.
Ils attendent avec l'idée de transformer les locaux en coopérative d'intérêt collectif. Aujourd'hui, ils se fournissent en nourriture auprès des banques alimentaires, d'autres associations ou auprès de particuliers et les reconditionnent en colis alimentaires avant de les distribuer dans une trentaine de quartiers. Chaque quartier recevant une livraison de colis par semaine. D'ailleurs, la logistique relève de la prouesse car l'association qui occupe le McDo respecte strictement les gestes barrières et reste donc en jauge limitée de bénévoles. Leur objectif, c'est de pouvoir pleinement s'approprier le lieu pour en faire une cuisine d'aide alimentaire permanente et un lieu d'insertion professionnelle tout en récupérant les lieux bétonnés aux alentours pour en faire des jardins potagers.
Mais sur ce même modèle, vous nous dites qu'aux États-Unis, les friches industrielles se reconvertissent en fermes.
Exactement. Des usines qui deviennent des fermes. Les friches industrielles en désuétude sont de plus en plus souvent reconverties en fermes d'agriculture urbaine pour produire de la nourriture à proximité des villes et créer de l'emploi aux USA. En France, ça foisonne aussi. À Bordeaux, l'ancienne usine Niel, récupérée par l'armée, a dernièrement été réinvestie pour donner naissance à un projet d'économie circulaire appelé Darwin. Énergie verte, ateliers collaboratifs et agriculture urbaine ont transformé ce cimetière de l'industrie et de la présence militaire en écosystème du bon vivre. À Caen, une ancienne usine sidérurgique est-elle devenue un tiers-lieu ? C'est avec ces exemples de reconversion, des reconversions comme celle-ci, qu'on s'attelle aussi aux aspects humains du développement durable. Réutiliser d'anciennes usines privées en maisons d'intelligence collaborative et collective, convertir des endroits autrefois polluants et exploitants en écosystèmes solidaires et harmonieux, voilà des exemples qui donnent de l'espoir.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète tous les matins sur Europe 1, il est 8h44. Dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse, bien sûr, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteleu avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteleu. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'essentiel de l'actualité.
Oui, bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, bonjour à toute l'équipe, à Jean, à Guillaume, à Walter, à tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est Nicolas Sarkozy qui a donné une interview au Figaro. Et oui, il a joué à domicile, vous l'avez compris, mais c'est un peu normal, après un coup dur, on a tous besoin de voir nos proches. Et puis l'autre info, c'est encore Nicolas Sarkozy qui est ce soir l'invité de Gilles Boulot du 20h de TF1. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec une condamnation à 3 ans de prison, on n'allait pas le voir dans Demain nous appartient. Hein. En revanche, peut-être bientôt sur France 2, dans Faites entrer l'accusé. Allez, l'autre info, c'est Anne Hidalgo. La maire de Paris propose aux enseignants de faire classe en extérieur, si cela est possible. Une très bonne initiative pour les enfants qui seront moins exposés du coup au Covid pour pouvoir respirer le grand air chargé de particules fines, de CO2 et de méthane. En plus, Lo Cabrol nous a annoncé le retour du froid. C'est parfait. Et quitte à tousser, autant tousser pour les mêmes raisons que d'habitude. Il n'y a pas de raison de changer.
Merci Mathieu. À demain.
Dans votre service.
La justice a été trop sévère avec Nicolas Sarkozy. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Je fulmine, madame, je fulmine. On a collé, tenez-vous bien, 3 ans ferme à mon client Georges Tron pour massage des pieds et maintenant 1 an ferme à Nicolas Sarkozy parce qu'il avait une ligne SFR et une ligne, pardonnez-moi, Bouygues Télécom. Dans quel monde vit-on ? Franchement, c'est un acharnement, madame, un acharnement. Mais pense-t-on aux familles des condamnés, aux enfants Sarkozy,
à la femme tronc.
Non, attendez, pour Nicolas Sarkozy, c'est pas fait, hein, il va faire appel.
Vous pourriez plus rire à la femme tronc. Quand même.
Oui, la femme tronc, les stutrines, allons-y. Oh là 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 là, la femme tronc.
Je vous colle un procès, madame, pour non-rire à bonne vanne.
Qu'est-ce que je disais ? Oui, Nicolas Sarkozy, c'est pas fait du tout, hein, puisqu'il va faire appel.
Mais heureusement, je fais confiance, madame, à l'injustice de mon pays.
Non, non, attendez, l'expression, c'est je fais confiance à la justice de mon pays.
Oui, mais écoutez, interprétez-le comme vous voulez, mais il vaut mieux faire confiance à l'injustice, je confirme son pays. Elle date... Madame Julie, puisque vous êtes dubitative... Et insolente parfois. Elle date de quelle année, cette affaire des écoutes ?
2014, je crois. C'est 2014, oui.
Et en quelle année est-on aujourd'hui ?
En 2021.
Voilà. Mmh. Monsieur Sarkozy a donc joué la montre déjà. Enfin, il a déjà joué la Rolex.
L'Algérie, hein, attention.
Oui, la Julie, oui. Ne ramenez pas tout à vous. Elle a déjà joué la Rolex pendant... Il a joué la Rolex pendant 7 ans durant. Et ce n'est que le début, parce que, monsieur Béliard, monsieur Cabrol, je vous le confirme, la justice est bien faite, enfin, mal faite. Là, il va faire appel, il va gagner encore un an, puis il va faire opposition au jugement, puis il va faire une demande d'annulation pour vice de procédure, puis un pourvoi en cassation, puis un appel de cassation, un recours en révision de renvoi de cassation, puis un référé de rejeté de vice de procédure de recours d'annulation. Bilan. Vous voulez que je vous donne le bilan ?
Mmh, oui.
Il aura gagné 7 ans de plus. Et puis voilà. Après, ce n'est pas fini, bien sûr. Cour européenne de justice. Et là, c'est reparti pour un tour. Appel, opposition, cassation, bref. Bref. Quand le jugement définitif tombera, je vous en donne mon billet. Il aura quel âge ? Il aura 92 ans, monsieur Sarkozy. Comme monsieur Balladur. C'est ça ce que je dénonce. C'est ça l'injustice de mon pays, madame.
Ah bah bravo. Merci, monsieur le ministre.
J'ai été bon, non ?
Très bon, excellent. Comme d'hab. Allez, on apprend tous à connaître ce PNF, hein, le Parquet National Financier, qui est à l'origine des gros soucis de Nicolas Sarkozy. On va rendre hommage à son créateur, c'est François Hollande. Bonjour, monsieur Hollande.
Eh oui, eh oui, le créateur du Parquet National Financier, ben c'est
oui,
Bibi.
Et oui.
Et j'ai été bon, non ? Nicolas, si tu écoutes le poste à Galène et Europe numéro 1, et sache que c'est Bibi qui est à l'origine de toutes tes emmerdes du moment. Déjà que je t'ai battu en 2012, mais voilà, je t'en remets une derrière la tête 9 ans plus tard.
Oui,
quel
enfin,
bien ça fait.
Oui. Enfin, le parquet national.
Doucement.
Oui, bon, monsieur Béliard, moi aussi j'ai le droit de rire comme vous, à l'antenne.
Enfin, le parquet national financier avait aussi révélé les agissements de votre ministre des Finances, Jérôme Cahuzac.
Oui, on me fait ça. Oui, Jérôme Cahuzac. Oui, faire bon.
Ben oui.
Ah, mais j'en s'en fous de ça. Madame, je lui dis, parlez de l'actu, c'est pas l'actu. Passons à autre chose. C'est pas l'actu.
Bon,
parlez de l'actu.
Passons.
Europe numéro 1 est une radio généraliste d'actualité. Donc parlez d'actualité.
Bon, bah ça, par exemple, cette semaine, Emmanuel Macron a lancé à des jeunes tenez bon, rendez-vous dans 4 à 6 semaines.
Ça, jamais.
Quoi ?
4 à 6 semaines, jamais. Emmanuel, je me permets s'il m'entend, il ne faut jamais s'engager sur une date et un résultat malheureux. Quelle erreur de débutant. Regardez, moi je peux le confier aujourd'hui, le concéder, j'ai fait la boulette avec l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année, vous vous souvenez ?
Oui,
ça va. Je peux m'auto-flageller, énorme connerie. Je me suis gouré au moins d'un an, voire 5 ans.
On s'en souvient, merci monsieur Hollande.
J'étais bon, non ?
On adore le rire. Nicolas Sarkozy contre-attaque ce soir. Il sera aux 20h de TF1. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Oui. Bonjour Mme Pyjamas. Bonjour monsieur Béliard. Écoutez, oui, je serai ce soir aux 20h de monsieur Boulot afin de dire quelle indignité, quelle ignominie, quel humiliage pour la justice de notre pays. La justice, je vous le dis tout de go, ne sort pas grandite de cette affaire calamitesque que vous dénoncez.
Vous dites qu'il n'y a pas de preuve de votre tentative de corruption.
Mais non, il n'y a pas la moindre preuve. Il n'y a pas de preuve, excusez-moi. C'est ça le scandale.
Non, mais vous avez pourtant dit, je l'aiderai en parlant de la volonté d'un juge d'obtenir un poste à Monaco.
Non, mais madame Julie, quand est-ce que vous pouvez vous mettre dans la tête une chose ?
Quoi ?
Mais que je l'ai dit, ça ne prouve rien. Une déclaration, ce n'est pas une preuve, Mme Julie.
Si, quand même, allons.
Non, mais non, vous confondez tout. Une preuve, quoi que c'est une preuve. Il faudrait avoir votre spécialiste de police-justice, qui n'est pas là d'ailleurs, je le constate ce matin. Non, une preuve, quoi que c'est qui d'ailleurs, votre spécialiste c'est,
Il y en a plusieurs.
Allez-y, donnez les noms.
Je ne donne pas les noms.
Ça flotte, oui, vous voyez, il n'y en a pas, Europe 1, de spécialistes.
Alors, le spécialiste, c'est qui c'est ?
On va citer Guillaume.
Oui, parce que j'ai pris Wikipédia vite fait.
Mais ce matin, il y avait Chloé Triomphe en studio, par exemple.
Non, oui, Chloé Triomphe, bien
sûr. Allez, enchaînez, s'il vous plaît.
Je vais vous dire qui c'est une preuve. Une preuve, Mme Julie, écoutez bien pour Chloé Triomphe et votre billet là. Une preuve, c'est quoi ? C'est un papier où il y a marqué « Je sous-signais Nicolas Sarkozy tente par la présente lettre et le présent chèque de 40 000 balles de corrompre le juge machin ou je ne sais qui dans une tentative de corruptabilité. » Ça, là, je suis d'accord avec Mme Triomphe et M. Guillaume Billet.
Et on va leur demander. Là,
je suis d'accord que c'est ça, ça serait une preuve. Mais ça, ce papier-là, si vous le trouvez, ben vous êtes fort parce qu'il n'y en a pas.
Écoutez, hein,
parce que je ne l'ai jamais écrit, ce papier.
Essayez de vous défendre mieux aux 20h ce soir, hein, d'accord ? Allez, merci, oui. M. Sarkozy.
J'ai le numéro de Mme Triomphe.
Le gouvernement veut poursuivre sa réforme de l'assurance chômage qui durcira les conditions d'accès au chômage et devrait réduire les droits de 40% des demandeurs d'emploi.
Mais ça va pas. Chut, mais vous êtes folle ou quoi ?
Oh, monsieur le maire, bonjour. Mais comment
chut,
ça, je suis folle ?
Mais
enfin, c'est intéressant comme sujet, la réforme de l'assurance chômage. Les indemnités seront calculées de façon plus dure, plus sévère, et les montants baisseront. C'est
mais important. Enfin, mais arrêtez ! Julie, mais vous êtes inconsciente. Arrêtez. Vous êtes en train de tout foutre, toute notre stratégie par terre. Les gens n'avaient rien vu. Ah. Mais ils étaient occupés par le Covid et le procès Sarkozy. Tout était en train de se passer parfaitement, discrétos, sans heurts, sans bruit. Et vous, là, vous venez claironner toute notre stratégie sur votre antenne. Vous voulez provoquer des manifs ou quoi, Mme Julie ? Vous êtes inconsciente.
Les syndicats s'en étaient aperçus de la nature de votre réforme. Hein.
Mais aujourd'hui, les syndicats, on s'en fout. Vous les voyez sur des plateaux télé, vous, les syndicats ? Hein ? Merde, franchement, là, vous foutez tout en l'air, personne n'était au courant. Ça passait crème et vous avez tout gâché. Si on se retrouve avec des gilets jaunes à gérer pendant tout le reconfinement, ça a votre faute, Mme Julie. Hein.
Oh bah d'accord, ouais, mais enfin, vous n'avez qu'à suspendre, votre réforme, là.
Ah mais certainement pas, avec la crise économique qui se pointe, des chômeurs, il va y avoir que ça, alors.
Ah bah, il y a des chances.
Bravo Nicolas Canteloup. Et ses auteurs, Philippe Cavrivia, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Merci Nicolas et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. À 8h56 en studio avec nous, Philippe Vandel. Bon. Et oui, parce que Culture Média va commencer. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est la nouvelle chaîne locale de BFM, c'est leur cinquième. Elle s'appelle BFM d'ici, D-I-C-I. Elle cible les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On en parle avec Hervé Bérou, c'est le directeur général délégué d'Altice Média, en charge de l'info et du sport, Altice qui chapeaute BFM. Au sommaire également, notre confrère Stéphane Bern, qui présente une sorte de tour de France des agricultrices et des agriculteurs. Ça s'appelle la ferme préférée des Français sur France 3, et lui-même étant l'animateur préféré des Français, numéro 2. Et puis le premier, c'est Pernod. Et puis le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui sort son livre autobiographique. Ça ne s'appelle pas Cinéma, mais judoka, vous allez comprendre.
On va comprendre en écoutant Culture Média, de 9h à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous laisse la main, mon cher Philippe. Moi, je vais m'en aller pour passer la journée. On va voir ce qu'on va faire. Éventuellement, Laurent Cabrol nous dit qu'il fait beau encore un peu aujourd'hui.
Exactement.
Et puis, je reviendrai demain matin.
Plus en fin d'après-midi, a dit Cabrol.
En direct à 7h demain matin. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.